Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour, vous faire découvrir des hommes et des femmes qui font briller nos savoir-faire tricolores et qui inventent aussi la société de demain. Aujourd'hui, gros plan sur la dégustation de vin. C'est un métier, mais il change, notamment avec Internet. Et vous allez voir que les Français l'ont bien compris. Elle existe depuis 50 ans. Elle a débuté dans la vallée de l'Arve. Somfy est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, mettre en relation les professionnels de l'hôtellerie-restauration et les saisonniers, oui, c'est possible. Le Tinder du secteur s'appelle Badacan et c'est la solution. C'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez, on vous attend comme chaque jour. Venez nous dire par exemple, Anissa, si vous buvez du vin et si vous aimez qu'on vous conseille, parce que c'est de dégustation que nous parlons aujourd'hui.
Oui, n'hésitez pas à témoigner et surtout à poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. Ils sont là, ce sont des spécialistes, alors décrochez votre téléphone, 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Et puis on lit également tous vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Le trophée Duval-Leroy du meilleur jeune sommelier de France a été décerné hier et c'est une première, et bien c'est une femme qui l'a décroché. Elle s'appelle Charlotte Guyot. Ça nous a forcément donné envie de mettre un coup de projecteur sur cette profession qui est, vous allez le voir, aussi en train de changer. Pour en parler avec nos invités à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayagela, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est le fondateur de Oui Demain. Bonjour François Sigel.
Bonjour Raphaël.
Il y a encore 20 ans, vous serez d'accord avec moi, on ouvrait de grandes bouteilles pour les grandes occasions. Aujourd'hui, c'est vrai que la vente de vin s'est en quelque sorte démocratisée, avec notamment l'arrivée dans nos vies d'Internet, même si l'activité n'enregistre plus les taux records de croissance qu'elle a connus il y a encore 10 ans. Bonjour Jean-Michel Deluc.
Bonjour tout le monde.
Merci
Bonjour
d'être Raphaël. Avec nous. Vous êtes le cofondateur du Petit Ballon. Et alors, chose étrange, je crois que tout a commencé, votre amour pour le vin et pour le métier en Angleterre, c'est pas banal.
Tout à fait, un accident, mais un bon accident, puisque j'ai appris mon métier, j'ai mes diplômes en Angleterre, et c'est vrai qu'en France, à l'époque, ça n'existait pas.
Oui, vous étiez français, vous travailliez dans un restaurant.
Au Café Royal à Londres.
Comme vous étiez français, on vous a évidemment, très logiquement, demandé de vous occuper de la cave.
Oui, en plus, c'était une très belle cave. Il y avait presque 1 million de bouteilles au Café Royal à Londres. C'était une des plus belles caves du monde, mais on m'a demandé de m'occuper du vin. Et comme tout bon français, ou la majorité des Français, j'y connaissais rien.
Donc, vous avez appris. Et donc, vous avez appris
demandé,
là-bas.
Voilà, j'ai demandé à ce qu'on m'inscrive à des cours. Et je me suis inscrit au WST, Wine and Spirit Trust. Et également à l'école des sommeliers anglais.
Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de diplôme en France. Alors non, ça, moi, je ne le savais pas.
On apprenait le métier de père en fils ou sur le tas, mais un diplôme officiel est arrivé qu'en 1981.
Et alors, à votre retour en France, évidemment, vous continuez dans cette activité. Vous allez entrer dans de prestigieuses adresses. Et puis, je saute quelques étapes. En 2011, vous créez le Petit Ballon. Quelle était l'idée ? Aider justement les Français à mieux connaître le vin, à mieux le choisir aussi ?
Alors, ça faisait une dizaine d'années que j'étais déjà sur le net avec un autre site. Et puis, en 2011, c'est une rencontre avec Martin Ouanissian, mon associé, qui m'a émis une idée et que j'ai trouvé très simple. Et je trouve que la simplicité aujourd'hui est une qualité et j'avais toujours envie d'être plus proche des consommateurs, d'être un petit peu le sommelier à domicile, donc c'était l'occasion ou jamais.
Donc vous avez décidé de nous envoyer des box, elles sont là, hein, si vous nous suivez sur europe1.fr, une box avec à l'intérieur Deux bouteilles
de vin accompagnées de fiches techniques écrites par un sommelier, bien évidemment.
Elles sont là. Voilà. Comme ça peut impressionner, nous dit Anissa, les convives lors
génial.
Du repas.
Voilà, et puis une gazette qui raconte l'histoire du vin, l'histoire du vigneron, quelques recettes de cuisine, que boire ou que lire avec les vins que nous proposons. Voilà, et il y a 3 box aujourd'hui.
3 box qui ont des prix différents, des ambitions différentes aussi.
Alors la première box qu'on appelle H de raisin, c'est la première box 1990 depuis le départ d'ailleurs. Et c'est plutôt des vins découvertes qu'on consomme couramment. Et là, on s'amuse à proposer des cépages, des appellations, des vins du monde, etc. qui vont surprendre. La deuxième box qui a été créée était un peu plus premium, avec des belles appellations, donc de quoi constituer sa cave. Voilà. Et toujours pareil avec une gazette et fiches techniques. Et depuis juin dernier, nous avons évidemment suivi un petit peu la tendance en créant une box bio.
Alors justement, vous parlez de la tendance. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur le marché du vin sur Internet. Il se porte comment, Elisabeth ?
Eh bien, il est porteur, hein. Il reste porteur, mais la vente des vins sur Internet s'essouffle, hein, légèrement. Bon, il faut dire que pendant longtemps, nous avons été habitués à des taux de croissance phénoménaux. Hein.
C'était des
taux de croissance records de 30% par an en moyenne entre 2008 et 2015, d'après une étude Xerfi. Donc, pour l'avenir, les ventes de vin, bon, on n'a pas de souci à se faire, hein, les ventes de vin en ligne vont progresser, mais de seulement 6% par an, ce qui est déjà formidable.
Vous avez trouvé d'autres box, parce que je crois que c'est quelque chose qui marche bien aujourd'hui.
Ouais, bah oui, ça marche tellement bien. Les box, on en recense plus de 200, 300 sur Internet. On a des dizaines de sites qui proposent leurs abonnements avec des offres, des bouteilles haut de gamme, en passant par des labels bio, des vignerons indépendants, ou alors par les critères sont les régions. Tous les amateurs peuvent y trouver leur compte. Alors, en outre le petit ballon, vous avez 3x20, par exemple, 100%, ce sont des bouteilles des petits producteurs à partir de 19,90€. Vous avez My Vitibox, vous avez Winebox. Chacune a ses particularités, hein. Ce sont des sélections par mois de 2 ou 3 bouteilles choisies par des sommeliers reconnus.
On voit justement, Jean-Michel Deluc, que les tarifs sont identiques, qu'il y a de plus en plus de box. Comment est-ce qu'on fait, nous, consommateurs, pour choisir justement dans ce marché qui est de plus en plus présent ?
Ben, il faut faire confiance aux sommeliers, ça c'est sûr. Nous, on est là depuis 2011. Les vins, la qualité des vins, les échos, ne pas hésiter à comparer. Moi, j'ai toujours dit ça. Voilà. Et nous, on essaie toujours d'être les meilleurs. Et je pense que nous sommes les meilleurs.
Que dit notre coach, François Cégel ?
Il est tout à fait d'accord avec la question qui a été posée par Raphaël. Que vous venez de poser, Raphaël, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on est aiguillé ? Parce que moi, je veux dire, que ce soit chez un vendeur de vin ou chez un sommelier, j'en ai marre qu'ils me disent que ça dégoûte tannique acidulé, qu'il y a un
la
petit pourcent de réglisse avec un peu de cerise, etc. C'est
oui.
pas ça qui me dit. Moi, je veux savoir, monsieur, pourquoi vous me recommandez ce vin ? Pas parce que c'est le plus cher à la carte, globalement. Voilà, j'ai besoin d'un conseil et je pense que ce conseil fait vraiment défaut.
Ouais.
Parce que
quand vous êtes... La démocratisation du conseil, c'est
bah
ça ?
Oui, quand vous êtes dans une boutique, hein, vous avez les yeux qui miroitent, les vendeurs de vin, ils font du marketing, les étiquettes sont de plus en plus vraies, proches, de proximité. Bon, vous faites votre sélection en fonction du cru. Mais en gros, le gars, il conseille pas très bien les gens.
Alors,
ce que je peux répondre, c'est qu'au petit ballon, hein, c'est le cas du petit ballon, lorsque vous devenez abonné, on fait un profil vin. On vous pose des questions et on essaie
pour savoir
de voir
ce qu'on aime.
Voilà, pour savoir ce qu'on aime. Puis ensuite, on va vous envoyer des vins en fonction et on va jouer là-dessus jusqu'à arriver à peu près à ce que vous aimez. Voilà. Le but est également de découvrir. Et même si des gens nous orientent vers ce qu'ils aiment, il y a des gens qui aiment aussi être
surpris,
découvrir des vins, etc. Donc on affine de plus en plus le choix des vins et c'était très important.
Vous allez, l'étape d'après, je crois, travailler justement sur d'autres vins à découvrir avec des vins qui sont encore en élevage. C'est important justement de pouvoir avoir comme ça la primeur pour certains de vos clients.
Alors au-delà des box, hein, des vins dans les box, on est en train d'établir effectivement une vraie carte des vins. Et parce que souvent je goûte des vins que j'adore, qui sont merveilleux, mais qu'on ne peut pas mettre dans les box parce qu'on n'a pas les quantités suffisantes. Et donc ces vins-là, on va les vendre quand même. On va les vendre d'une manière ponctuelle, sur une dimension d'un jour, etc. Et là, je reviens de Bordeaux, où j'ai goûté le millésime 2018, qui s'avère plutôt très très bon, avec quelques exceptions bien sûr. Et donc, pour la première fois, nous allons nous mettre au primeur, mais avec le ton petit ballon, plus moderne, plus ouvert. On va sortir un petit peu de l'aristocratie bordelaise.
Avec modération, je le précise.
Toujours
évidemment.
Avec modération, c'est l'amour, la passion qui compte avant tout.
On reste ensemble, on continue à parler dégustation aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et pourquoi pas une appli et un scanner du vin ? Eh bien oui, ça existe et c'est français. Vous allez découvrir avec nous dans un instant Mayono. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h. Et s'il y a bien un domaine dans lequel la France est numéro 1, c'est celui du vin. Alors comment mieux déguster le vin? Vous avez invité des spécialistes, Raphaël Duchemin, aujourd'hui. Vous pouvez leur poser toutes vos questions, n'hésitez pas, Standard Europe 1 3921. Et puis Twitter, on lit vos messages et vos réactions avec le hashtag Europe 1.
Comment savoir si un vin vous convient et si vous allez l'aimer? Pourrions-nous finalement être dans la bouteille ou dans le verre avant même de l'avoir goûté? Eh bien, presque, grâce à Maï Henault. Bonjour Fabien Munoz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Maï Henault. Maï Henault, c'est un sommelier, on peut le dire comme ça, 100% connecté. Ce système, il marche grâce à une application et grâce à cette petite chose que j'ai avec moi.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est ?
Qui ressemble à un stabilo, et donc il y a une petite fente dans sa partie basse.
Oui.
Et en fait, il vous suffit de l'immerger dans un verre de vin. Le vin rentre dans cet interstice, et ensuite il est flashé par de la lumière, différentes longueurs d'onde. Et ensuite, on retranscrit ça en paramètres œnologiques assez classiques, qui vont être le tanin, la puissance, la vivacité et l'évolution du vin.
Racontez-moi, comment vous est venue l'idée de fabriquer ce produit?
Alors nous étions un peu comme les clients qu'on essaye de toucher actuellement, c'est-à-dire en difficulté devant cette offre pléthorique de vin, comme on a pu en discuter
plus avant. Comme
le disait
François tout à l'heure, oui.
Et notamment dans le choix. Hein, lorsqu'on est au supermarché, on a un rayon de 1000 bouteilles, quelquefois, qui peut être devant nous, et avec du vocabulaire sur l'étiquette qui est assez pléthorique. Et donc on s'est dit, essayons de créer une échelle qui serait fixe et dans laquelle on pourrait repérer l'ensemble des vins du monde, d'ailleurs pas que français.
Donc qu'est-ce que mesure ce petit objet? Le tanin?
Exactement, l'association d'astringence,
on va dire.
Voilà, donc le piquant, l'acidité qui est en bouche. Ensuite, la puissance. Donc c'est le côté moelleux, chaleureux du vin, les vins du sud, du Languedoc par exemple. Et après, vous avez l'évolution, la maturité du vin. Là, vous avez des vins qui sont très vieux. Et on arrive à les caractériser.
Donc, il faut plonger automatiquement le petit objet dans le verre.
Vous
Ça veut dire qu'on a déjà acheté la bouteille.
Vous avez deux étapes, effectivement. La première, vous allez plonger dans votre verre de vin à chaque dégustation l'objet. Vous allez dire à l'application si vous aimez ou pas ces styles de vin. Progressivement, elle va apprendre vos styles de vin préférés. Et ensuite, vous allez pouvoir naviguer dans l'offre de vin sans avoir à ouvrir la bouteille. Parce qu'en fait, chaque mesure est
Donc
partagée
on
par l'ensemble de la communauté.
Donc on se crée finalement des références personnalisées.
Exactement.
Sur mesure.
Oui, mais ce qui est important après de connaître, c'est que l'ensemble des données sont partagées par l'ensemble des utilisateurs. Donc si vous êtes en supermarché, vous pouvez scanner une bouteille de vin, si elle est déjà enregistrée dans la base, vous allez recevoir le résultat d'un autre utilisateur. Et donc, on pourra vous dire, cette bouteille me correspond peut-être à 90% ou alors pas du tout, à 30%.
Ce que je n'ai pas dit, c'est que vous êtes allé avec cet objet-là au concours Lépine.
Oui, exactement, il y a 2 ans, il me semble.
2017
Oui, on a eu une médaille d'argent pour ce produit.
Vous êtes toujours deux dans l'aventure ou vous avez grossi entre-temps?
On reste toujours deux. C'est en prévision pour cette année, fin d'année, l'année prochaine, de faire grossir l'équipe. Mais pour l'instant, on fait plutôt sous-traiter les différentes tâches, notamment en France.
Ça vous plaît, François, cette initiative?
Ça, je ne peux pas dire que ça ne me plaît pas, parce qu'on en a parlé dans Oui Demain. Et on l'a testé sur le site, je crois, dans la première version.
Oui.
Alors après, mais même en ayant lu notre papier, en vous écoutant, j'ai toujours pas bien compris l'utilisation par le particulier, parce que je pense qu'il y a une utilisation professionnelle, une utilisation particulière. Alors pour le particulier, globalement, on peut aussi tremper ça dans le verre du voisin pour savoir si on a envie de commander la bouteille de la table d'à côté. Bon, je plaisante, mais
non,
globalement,
mais
quand
possible,
vous êtes
oui.
à table dans un restaurant, c'est pas évident d'aller tremper votre oui. petit machin dans le verre et puis de dire voilà l'analyse spectrométrique de la bouteille.
L'utilisation la plus courante au restaurant, c'est un peu comme un smartphone,
c'est plutôt
si vous l'utilisez en fonction du contexte, ouais. évidemment, bon là on préfère déguster sans trop se poser de questions. L'utilisation préférentielle, elle est à la maison, entre amis généralement, et vendredi soir, samedi soir, et le dimanche après-midi où les vins qui sont dégustés sont un peu plus qualitatifs, on va dire, en famille.
Alors vous avez parlé de la version 1, François, il y a la version 2 qui est arrivée, qu'est-ce qu'elle a de plus cette version 2?
On a amélioré la précision de l'outil notamment, et sa rapidité, puisqu'on a, comme toute première version, eu des retours de clients, et ensuite on a essayé de les prendre en compte pour les satisfaire.
Ouais. Vous avez dit que c'était flashé, qu'il y avait une petite lumière,
oui.
Ça ne fonctionne qu'avec le vin rouge pour l'instant, vous essayez de travailler sur le vin blanc, pourquoi ça ne marche pas avec le blanc?
Alors en fait, ça pourrait marcher avec le blanc, mais c'est un peu plus technique, il faudrait utiliser des ultraviolets, qui sont plus coûteux et aussi un peu plus dangereux, donc il faut protéger l'appareil. On veut sortir une version vin blanc avant la fin de l'année, donc on travaille dessus, mais...
On dit que les sommeliers ne se lancent pas dans des dégustations à l'aveugle vin rouge, vin blanc. Ils n'aiment pas trop ça, quoi, en général, quand on leur propose. Mais juste une question, est-ce que ça détecte les pesticides, les sulfites, globalement, tout ce qui est, pour être nocif dans le vin.
La fiche technique, quoi, finalement.
Oui, bien sûr. Pas directement, parce qu'en fait, il faudrait une analyse chimique pour faire pour mesurer ce type de procédé. Par contre, vous pouvez voir si un vin a tendance à évoluer de manière relativement naturelle, notamment quand il est à l'air libre. Si vous prenez un verre, vous le mesurez, vous attendez 2-3 heures, il n'a pas bougé, c'est visiblement il a un certain blocage conservateur.
Il y a de plus en plus, Elisabeth, de formes de dégustation. Certaines vont probablement vous faire hérisser le poil.
Oui,
en
par
tout
exemple
cas.
En canette, ça existe. C'est Winestar qui a osé proposer le vin en canette. Alors par exemple, je suis allée sur leur site, vous pouvez trouver des canettes de rose, de blanc, de rosé, de blanc ou de rouge. Par exemple, j'ai trouvé un Bordeaux ce matin, 24 canettes, chacune de 187 millilitres, coûte 49 euros, vous les faites livrer chez vous. Ou encore, vous avez le Wine Gaming, c'est un mélange de cours d'œnologie et d'escape game. Il y en a un qui se passe à Paris, vous vous retrouvez dans une cave à vin si possible, à 4 personnes ou plus, et vous avez 60 minutes pour élucider une enquête. Tout le jeu s'articule évidemment autour de l'univers du vin, avec des questions type c'est quoi un vin bouchonné, c'est quoi les tanins, et on avance comme ça et on découvre cet univers qui est parfois méconnu.
Et je peux vous dire que Thomas, notre réalisateur, me dit tu sors quand t'as tout bu. Non Thomas, on a dit avec
non,
modération.
Thomas, toujours avec modération Thomas.
On reste ensemble et on continue à parler dégustation sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous aimez découvrir les petits producteurs quand vous voyagez, mais vous ne savez pas ni comment ni où les trouver. Rue des Vignerons vous aide à faire connaissance avec le vignoble dans l'Hexagone. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h. Et aujourd'hui, on s'intéresse au vin avec ce son que l'on aime tous entendre. Voilà. Comment mieux déguster le vin? C'est la question que vous posez
à
vos spécialistes aujourd'hui. Raphaël Duchemin, vos invités sont là. Et ils répondent aussi à toutes vos questions. N'hésitez pas. 39,21, 50 centimes la minute pour poser vos questions. Hashtag Europe 1, ça c'est pour Twitter.
Allez, on s'en va. Anissa, on va découvrir le Bordelais ou la région de Bourgogne, comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément où s'arrêter, ni comment trouver les bons producteurs. Eh bien aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous aide, c'est Rue des Vignerons. Bonjour Jérôme Misnardi.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez lancé votre site en 2015 et une appli juste après, l'année suivante. Votre idée, c'était justement de nous aider, nous touristes, à aller chez le viticulteur, à goûter sur place, à découvrir.
Exactement, ça part souvent d'une expérience personnelle. On s'est rendu compte que c'était pas toujours très très évident de trouver le domaine qui correspond le mieux à son besoin. Donc, ce qu'on a essayé de construire aujourd'hui, c'est un site qui permet à des gens comme vous et moi de leur simplifier la vie pour qu'ils puissent trouver le domaine qui leur va le mieux. Donc on met en avant un certain nombre de choses qui permettent de décider les photos, le prix des vins, le prix des activités. Et puis deux points qui me paraissent vraiment essentiels.
Des itinéraires aussi pour nous aider à trouver le viticulteur,
alors,
parce que
encore,
c'est souvent un peu compliqué.
Pas encore, on vous laisse faire votre itinéraire entre votre hôtel, le restaurant, la façon dont vous avez un peu structuré votre week-end,
parce
vos vacances.
Parce qu'on a tendance à s'arrêter finalement au bord de la route et à suivre les panneaux qu'on voit.
Oui, alors il y a effectivement un certain nombre de vignerons qui proposent ça. Bon, ce qu'on essaie de faire nous, c'est un peu de sortir des sentiers battus pour proposer autre chose. Et puis quelque chose que vous avez vraiment choisi, si vous aimez les vignerons qui bossent en bio, en biodynamie, vous pourrez choisir ce critère-là. Si vous avez décidé de ne pas mettre plus de 15 euros dans la bouteille de vin chez le producteur quand vous irez, vous pourrez choisir ce critère-là. Voilà. Enfin, en tout cas, l'ensemble des critères. Deux points qui me paraissent importants, c'est les avis, parce que c'est souvent ça qui aide les clients à décider, comme sur tout un tas d'autres sites internet, sur d'autres marchés aujourd'hui. Et puis surtout, l'immédiateté de la réservation. Aujourd'hui, on garantit, quand les clients viennent sur le site, qu'ils peuvent réserver jusqu'à une heure avant. C'est souvent ça la difficulté auxquelles ils sont confrontés.
J'ai regardé votre parcours et en fait, tout a commencé avec un plan de départ, c'est ça ?
Oui, alors effectivement, donc c'est mon associé Barthélémy Lavoine qui a eu l'idée de Rue des Vignerons, qui était lui était éligible.
Vous aviez la passion commune.
Alors moi un peu plus que lui, mais bon, lui était éligible au plan de départ dans une grande entreprise qui s'appelle Bouygues Télécom. Exactement à la même période, il avait décidé d'aller découvrir plutôt que d'acheter son vin en grande surface des domaines viticoles dans le sud de la France, notamment en Provence. Et puis en revenant quelques jours après, il m'a dit écoute, c'est quand même très étrange. C'était un samedi après-midi, on nous a donné un petit dépliant, on en a appelé 2, 3, 4, 5, ils n'étaient pas ouverts, ils ne prenaient pas les chiens, ça ne correspondait pas à ce qu'on recherchait. Je pense que la problématique à laquelle on a été confronté, beaucoup de gens ont dû y être confrontés.
Donc qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes parti ? Vous êtes allé à la découverte ? Vous êtes allé faire du porte-à-porte pour les référencer ?
On s'est d'abord posé sur ce qu'on avait envie de proposer aux clients, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire et quel type de site on veut faire, finalement, quelles sont les problématiques auxquelles les clients sont confrontés. Et une fois qu'on a fait ça, on s'est dit avec qui est-ce qu'on a envie de travailler ? avoir 200-250 domaines viticoles en France qui font du vin moyen, qui accueillent moyen, qui ont une expérience moyenne, c'est assez facile.
Donc trouver il y a des critères.
Oui, il y a des critères très très précis. On essaie toujours d'avoir des gens qui font des jolis vins, donc souvent voilà, présents dans les guides, les plus connus, RVF, Bétane, Hachette. Des gens qui ont dans leur ADN le fait d'accueillir, dont on sait que nos clients vont vivre une expérience
qui vont partager voilà, effectivement l'amour du vin.
Une jolie expérience. Et puis surtout, on essaie de faire en sorte que nos clients ne revivent pas ce qu'ils vont parfois retrouver quand ils vont sur certaines structures publiques. On vous file un dépliant, vous avez 300 noms, il faut appeler.
Vous
donc on essaie d'avoir quelque chose qui est assez sélectif pour que ça soit représentatif de la zone. Donc en ayant des très grands, des moyens, des petits, des qui bossent en biodynamie.
Et vous êtes très demandé, parce qu'il y a un millier de vignerons qui attendent pour entrer justement sur votre site.
Oui,
vous en avez 250 aujourd'hui, 300 d'ici la fin de l'année.
Exactement. Alors j'oublie pas quand même qu'il y a 4 ans, on passait beaucoup de temps pour avoir un rendez-vous et ensuite avoir l'accord d'un domaine viticole. C'est vrai que cette année, on va avoir un petit peu plus d'un millier de demandes et on en prendra entre 20 et 30.
François ?
Oui, que... c'est plutôt sympathique et agréable, parce que d'abord, il y a effectivement, c'est compliqué de faire une route des vins, hein. Des fois, c'est fermé, des fois, il y a un quart de touristes, des fois, on se plante. Moi, j'ai fait ça en Géorgie, il y a pas longtemps, où il y a par ailleurs de très bons vins. Mm-hmm. Globalement, à chaque fois que j'ai acheté des vins en direct, je me suis planté, je les ai mis globalement au vinaigre, quoi. C'était pas possible. Donc là, au moins, il y a des notations, on peut recroiser effectivement la qualité du vin. Et puis, il y a aussi ce qui est intéressant, la beauté du site. Globalement, on peut avoir, je me suis même demandé si parfois, il n'y en avait pas qui faisaient chambre d'hôte, et voilà, si, voilà.
Il y en a.
Donc, en gros, c'est une façon, c'est un bon guide de touristique.
Et vous prenez une part, justement, sur les réservations, par exemple, de cours d'œnologie ou de visites ?
La façon dont on se rémunère,
oui.
Nous, oui, effectivement. Ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est que le prix soit pour le client final exactement le même s'il réserve à la propriété ou sur notre site, et on a ensuite une rémunération qui nous est faite de la part des vignerons, tout à fait.
On reste ensemble, on continue à parler dégustation dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et avec vous aussi, 39-21, vous restez avec nous et vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invités. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et la France déguste le vin avec de toutes nouvelles façons de déguster le vin. Vos invités nous les ont présentés, Raphaël Duchemin, ces nouvelles façons, ces innovations pour déguster le vin. Vous pouvez d'ailleurs leur poser toutes vos questions dès maintenant. 39-21, ça c'est le standard. Hashtag Europe 1, vos messages sur Twitter.
Jean-Michel Deluc, cofondateur du Petit Ballon, est avec nous. Fabien Munoz également, cofondateur de Mayono, un sommelier 100% connecté. Jérôme Isnardi également, cofondateur de la Rue des Vignerons, toujours avec nous. Notre coach François Sigel et bien sûr Elisabeth Assayag. Justement, Elisabeth, vous avez trouvé en cherchant pas mal d'applis hein, justement qui parlent du vin.
Oui, alors il y en a énormément et il y en a une que j'ai trouvé pas mal, c'est la petite appli QBQM, que boire que manger. C'est une équipe de sommeliers qui a travaillé pendant 2 ans, qui a décomposé les plats.
Les accords mets vins.
Voilà, pour trouver le principe des accords mets vins. Et ainsi, ils ont créé un algorithme qui a donc été mis au point et qui permet d'improviser une recette. Il suffit de détailler vos produits sur votre téléphone et vous obtenez immédiatement le style de vin qui va avec votre plat improvisé. C'est quand même pas mal.
Ah oui, c'est très bien. Il y a un appel au 39-21. C'est Sophie qui nous a laissé un message. Sophie qui est à Cherbourg-Octeville et qui nous dit « Je m'étonne qu'on ne parle pas des petits cavistes de quartier. Je trouve ça dommage. Je suis caviste depuis 2006. » Sophie, on ne parle pas des cavistes parce que tout simplement, on a choisi aujourd'hui de donner la parole à des acteurs qui font autre chose, qui se sont mis sur un secteur différent, notamment celui d'Internet, et qui ont parfois inventé des nouvelles solutions. Évidemment, on aime nos cavistes, n'est-ce pas François ? On en parlait tout à l'heure. Et les petits cavistes de quartier, c'est important. On est bien d'accord avec vous. Moi, j'ai une question pour tous les trois. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce marché du vin sur Internet, cette nouvelle forme de dégustation, c'est quelque chose qui est en train de véritablement se développer ? C'est en train de stagner ? Qu'est-ce que vous en diriez, Jean-Michel Deluc ?
Ah ben, sous l'autre forme, ça se développe encore. Hein. On a encore une marge, bien évidemment. Peut-être pas à la même vitesse que dans les premières années, mais on a une progression de 16-18% l'année dernière en ce qui concerne le petit ballon. Après des scores à 100% pour certaines autres années. Hein. Donc, mais ça continue à se développer. Mais le développement n'est pas que là aussi, c'est sur le choix de vin, sur l'ouverture, les primeurs, on en a parlé tout à l'heure, l'ouverture de magasins, puisque nous sommes également des magasins, le petit ballon.
Oui, voilà, vous avez fait le chemin inverse, d'abord Internet et puis ensuite
voilà,
le magasin physique.
Et puis une vraie carte des vins qui sera beaucoup plus ouverte. Donc il y a d'autres moyens de se développer et effectivement d'attirer une nouvelle clientèle. Il y a encore beaucoup de clients à atteindre.
Oui, le notorisme aussi, c'est quelque chose qui marche bien, hein, cher Robin Nardi.
Ah oui, c'est un marché qui est en pleine expansion, en pleine croissance. Nous, on se rend compte qu'il y a une vraie attente aujourd'hui, hein, dans un contexte social, économique, pas toujours évident, pas toujours facile, de retrouver ce lien, l'humain, une soif de comprendre aussi, d'apprendre, hein, comment sont faits les vins, comment est-ce qu'ils sont construits, et puis la dégustation, ça vient finaliser ça. Mais c'est effectivement un marché en forte croissance.
François, notre coach.
Oui, puis pour répondre à votre question, Internet, ça peut aussi, parce que globalement, en France, il y a un maillage de cavistes satisfaisant quand même. J'ai plutôt l'impression qu'il y en a même de plus en plus. Hein. Chacun se dit expert du vin. Hein. C'est pas comme malheureusement les marchands de journaux. Mais il y a des pays qui n'ont pas cette chance-là, et globalement, on peut sûrement vouloir goûter certains produits. Le transport, maintenant, ayant fait tellement de progrès, je dirais, de produits frais, je pense que ça pose pas de problème d'expédier maintenant une bouteille de vin au bout du monde.
Alors, vous étiez avec l'Angleterre.
Nous étions en Angleterre, bon, mais là, effectivement, avec les problèmes de taxes qui vont être, et puis le protectionnisme qui va arriver, puisque les pays du Commonwealth n'auront pas la même taxe que les pays de l'Europe, évidemment, donc très bien pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Donc effectivement, c'est un marché peut-être encore plus difficile. Les vins français sont considérés comme des vins de luxe en Angleterre, et que le niveau de consommation en Angleterre est plutôt en dessous de ça. Donc évidemment, on n'a plus d'autre place là. Mais par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire en France.
Fabien, on parlait hors micro tout à l'heure d'une solution peut-être sans déboucher la bouteille. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aujourd'hui, être connecté et savoir avant d'acheter ?
Oui, tout à fait. Ça peut être envisageable, hein, d'extraire une petite quantité de vin.
Ça existe déjà, mais ce n'est pas français ?
Non, c'est américain. C'est la société Coravin qui a développé cet outil. Donc, c'est une petite aiguille que vous plongez dans le bouchon. Elle extrait 2 centilitres de vin. Elle comble avec du gaz argon, il me semble. Et ensuite, la bouteille peut être conservée encore quelques années et on peut mesurer ou remettre ce vin ensuite dans la bouteille. Donc, ça peut être une piste.
Et c'est une piste sur laquelle vous êtes en train de
réfléchir. On est rentré en contact avec eux. Effectivement, on travaille dessus.
Merci à tous d'être venus parler dégustation de vin aujourd'hui sur Europe 1. On espère vous avoir donné envie de mieux découvrir nos viticulteurs et nos vignobles français.
Il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous restez avec nous dans 2 minutes, on part pour la vallée de l'Arve. C'est là que l'aventure Somfy a commencé. C'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 et tous les jours, Raphaël Duchemin, vous nous proposez de découvrir l'entreprise française qui va bien. Et aujourd'hui, elle fête ses 50 ans.
Eh oui, cette entreprise, vous connaissez effectivement son nom, Somfy, mais pas forcément sa signification. Bonjour Guillaume Despâtures.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Somfy, qui veut dire Société d'outillage et de mécanique de Faucigny. Qui est,
oui,
la région
exactement, qui est la région entre Genève et Chamonix.
Fameuse vallée de l'Arve.
La fameuse vallée de l'Arve, exactement.
Alors, je disais que tout a commencé là-bas et ça continue là-bas.
Oui, ça continue toujours là-bas. Ça a commencé là-bas puisque c'est une région qui, historiquement, s'est industrialisée assez tôt entre Chamonix et Genève, puisque les agriculteurs ne pouvant pas travailler dans les champs l'hiver ont commencé à faire de la mécanique de précision pour alimenter les horlogers de Genève. Et donc, c'est une région qui a toujours été très innovante et également tournée vers l'international.
Somfy, à l'époque, fait effectivement des mécanismes de précision pour la pêche, je crois, pour les téléskis. Alors,
en fait,
au départ,
Somfy faisait partie d'un groupe familial qui s'appelait Carpano et Ponce et qui avait différentes activités, qui faisait des moulinets de pêche, qui faisait des téléskis, qui faisait aussi des mécanismes et des automates pour les lave-linges.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un storiste lyonnais dans les années 70, presque, 69, je crois, qui vient et qui dit « Mais moi, j'aimerais bien que vous travailliez sur un autre procédé, justement pour les stores roulants. » Et c'est là que finalement, on change finalement de direction.
Et c'est là que Somfy a inventé son métier, qui était effectivement l'automatisation des ouvertures de la maison, à la demande d'un storiste lyonnais. Effectivement, c'est tous ces stores de terrasses, stores à projection, et il nous a demandé à l'époque de motoriser ces stores. Et c'est de là que tout est parti.
Alors, au départ, effectivement, c'est les volets roulants. En tout cas, c'est comme ça qu'on connaît, nous.
Alors, ça a commencé par les stores. Et très vite, on est passé sur les volets roulants, puisqu'il y a beaucoup plus de volets roulants dans une maison que de stores de terrasse.
Avec, à une époque, de la publicité qui vous a fait connaître, notamment des sponsors météo, ce genre de choses.
Exactement. C'est probablement une des stratégies qui a fait connaître Somfy et qui a établi Somfy comme un leader dans son industrie. À la création de Canal+, en fait, Canal+ cherchait des sponsors pour sa météo. Et ils sont venus solliciter Somfy, qui à l'époque était une entreprise B2B, une marque B2B, donc très industrielle. Et on a vu à l'époque l'occasion de se démarquer et d'établir, de créer une vraie marque consommateur et de s'adresser directement aux consommateurs, aux propriétaires des bâtiments et des maisons, pour les encourager à automatiser, à domotiser et à motoriser leurs volets roulants, leurs stores, leur portail par la suite.
Votre famille, c'est la famille qui a créé le groupe Damar.
Oui, mon grand-père et deux de ses frères avaient créé Damar.
Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez un beau jour à Somfy? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Quelle est l'idée?
Alors déjà, ce qui se passe, c'est qu'on est dans les années 80.
Oui. Damar 1983
1983, Damar est une entreprise florissante et Damar cherche à réinvestir ses bénéfices. Et donc là, on mandate un banquier pour aller identifier différentes pistes potentielles. Et l'un des sujets qui arrive sur la table, c'est Somfy. Alors, il y a plein de stratégies derrière, notamment la dimension de désaisonnaliser notre activité, puisque Damar fonctionne surtout l'hiver, Somfy fonctionnait plutôt l'été à l'époque. Je pense que surtout ce qui a fait la différence, c'est une rencontre entre des hommes. D'une part, Paul Georges, qui est mon père, qui était à l'époque dirigeant de Damar, et le CEO de Somfy à l'époque, puisqu'ils ont partagé, d'une part, la vision de ce que pouvait devenir la maison connectée, de ce que des automatismes de store de volets roulants étaient forcément quelque chose qui était appelé à se développer, puisqu'on pense toujours à plus de confort, d'économie d'énergie et de sécurité.
Ils étaient visionnaires, hein, parce que la maison connectée, ça y est, on y est. Et depuis, les choses ont beaucoup avancé, notamment chez Somfy. Vous avez énormément diversifié votre offre. Vous avez de plus en plus de produits. Vous rachetez aussi des startups. Vous étiez au CES de Las Vegas, une des rares ETI françaises, il faut le dire.
Oui. Oui, c'est. Je pense qu'on a fait, on a fait un grand chemin depuis 1983 ou depuis 1969, la création de Somfy, puisque du store de terrasse, on est passé au volet roulant, qui est aujourd'hui le gros de notre activité, mais également les motorisations de portail de garage et plus récemment, effectivement, avec la domotique, des box connectées, des thermostats connectés, des systèmes d'alarme ou de serrures connectées également. Donc aujourd'hui, on a toute une offre large de solutions pour l'automatisation de la maison, soit via des solutions 100% Somfy, soit également en partenariat avec les GAFA, les grands acteurs.
Oui, c'est ça, puisque vous n'hésitez pas non plus à vous tourner vers d'autres fabricants et à proposer des solutions mixtes, pas rester dans votre coin avec vos produits, mais essayer de travailler avec d'autres, justement, pour apporter un plus à ceux qui vont acheter vos solutions.
La grande difficulté aujourd'hui de la maison connectée, c'est la complexité. Souvenez-vous, il y a 15 ans ou 20 ans, quand on avait nos premiers ordinateurs portables, on passait un temps fou à débugger, à redémarrer, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la maison connectée, on est à peu près à ce même stade de développement. Et un des gros enjeux, c'est notre capacité à proposer une maison connectée sans couture aux propriétaires des maisons.
C'est-à-dire
aux utilisateurs.
Sans couture. D'où les...
Seamless, c'est-à-dire il faut
les systèmes compatibles.
L'autre exemple, c'est les oreillettes Bluetooth. Il y a 15 ans, qui ne fonctionnait pas entre deux marques de téléphone et ainsi de suite. Aujourd'hui, il faut qu'une solution Somfy fonctionne facilement avec soit des solutions Legrand Schneider, soit avec Amazon Echo, soit avec Google Home et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on arrive à offrir aux consommateurs des solutions qui soient vraiment compatibles, vraiment faciles, évidemment utiles et accessibles, mais surtout simples à utiliser et à mettre en œuvre?
Que dit notre coach, François?
Il dit que d'abord, Damar a été reçu dans cette excellente émission, hein, comme quoi.
Oui.
Et ensuite, c'est vrai que pour moi, les volets roulants, c'était... D'abord, Somfy, c'était des volets roulants. Cette
aussi,
espèce de
possible,
machin qui tombe en panne juste le jour où vous partez en vacances. En général, c'est ça, hein, où on vous appelle globalement. Bref. Et puis, je me suis aperçu, j'ai regardé vos films, vos vidéos. En fait, effectivement, vous êtes sur les objets connectés. Et il y a une vidéo qui est très, très, très impressionnante où on voit un gars avec une simple télécommande qui, globalement, ouvre à peu près près tout ce qui fonctionne chez lui roule, circule, se ferme. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a une compatibilité avec ce petit boîtier là qui a l'air assez magique ? Est-ce qu'il y a une compatibilité avec du matériel existant ou il faut tout passer en matériel neuf, quoi ?
Ce qui est très difficile, en fait, c'est notre capacité à appréhender les différents cas d'usage. Parce qu'on a de la maison résidentielle, on a de l'appartement, on a du neuf, de la rénovation. Aujourd'hui, tout est possible. Mais absolument tout est possible, mais c'est un peu compliqué. Notre enjeu, c'est vraiment de rendre ça très simple, le plus facile possible, y compris dans la rénovation. Et effectivement, avec des petits modules radio que vous pouvez insérer derrière vos interrupteurs, vous pouvez très facilement transformer une maison existante en maison connectée.
Et donc, c'est l'avenir et c'est Somfy, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler. Je crois que j'ai écorché votre nom. C'est bien Jean-Guillaume Despâtures.
Oui, c'est ça.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Mettre en relation l'hôtellerie-restauration avec les saisonniers, c'est un vrai problème. La solution s'appelle Badakan. C'est dans un instant sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Tous les jours, Raphaël, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Et à l'approche des vacances et des beaux jours, c'est une solution qui va rendre service à de nombreux Français.
Oui, vous comptez être saisonnier dans la restauration, vous êtes professionnel et vous allez recruter des extras. Il existe une solution pour tout simplifier, Elisabeth, et vous avez trouvé Badakan.
Oui, c'est la première appli qui met en relation les acteurs de l'hôtellerie, restauration, avec des saisonniers qui recherchent des missions de courte durée. Et ça tombe bien parce que chaque année, c'est compliqué de recruter localement pendant l'été. Alors le concept est très simple. Badakan vous permet de vous mettre en lien, par exemple, si vous êtes restaurateur ou hôtelier, avec des saisonniers pour des embauches de courte durée. Ça peut être des missions de quelques heures ou de quelques semaines. Dans un premier temps, un algorithme de matching, c'est-à-dire de correspondance, va permettre de trouver le bon candidat pour chaque établissement. Et au-delà de cela, Badakan s'occupe de tout, déclaration URSSAF, contrat de travail, bulletin de salaire, règlement. Toutes ces démarches qui sont un peu lourdes et qui peuvent parfois pénaliser les établissements ou les saisonniers qui ont peur parfois de passer à côté de leurs droits le temps d'un été.
Bonjour Bruno Calvo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Badakan. Comment ça vous est venu cette idée ? Badakan, d'abord, ça veut dire quoi ?
Alors Badakan, c'est un mot d'origine coréenne qui, comme souvent dans ces pays, un mot signifie une phrase, veut dire passage d'un état à un autre. Et en fait, c'était un peu l'illustration de faire passer nos clients, restaurateurs ou hôteliers, d'un état parfois de stress où il manque quelqu'un parce que justement, comme vous l'avez dit, une terrasse vient de s'ouvrir, un rayon de soleil et donc on a besoin de personnes supplémentaires ou quelqu'un s'est absenté, d'un état de stress à une solution que l'on leur trouve. Et parallèlement à cela, des gens qui cherchent à travailler, alors pas forcément uniquement des saisonniers, mais aussi des extras ou des gens qui veulent travailler de manière très temporaire pour des missions comme
quelques
vous l'avez
heures.
Dit, pour quelques heures, qui cherchent un complément de revenus, qui cherchent à varier leur job et qui donc ont cette permanence recherche. On va leur trouver une solution et donc on va leur trouver des jobs variés dans différents établissements.
Vous étiez donc les hôteliers, les restaurateurs à trouver du personnel. Je crois que vous avez une grande connaissance du monde de la restauration, ouais. Et vous partez du principe qu'il faut qu'il y ait tout le temps du monde en salle, c'est ça ?
Oui, en fait, on se rend compte que de tout temps, un des stress majeurs pour un restaurateur ou pour un hôtelier, c'est le personnel. C'est d'arriver à trouver une solution qui puisse se dire, OK, ce matin, j'ouvre, je sais que j'ai mon équipe qui est en place, qui est briefée, qui est compétente.
On n'est pas à flux tendu.
Et on n'est pas à flux tendu. Et c'est un petit peu, effectivement, à la fois l'expérience de mes associés Victor Penoat, qui a une formation Bocuse, Vatel, Benjamin Leba, qui lui a créé une start-up dans la restauration également de moyens de paiement et de fidélisation. Et pour ma part, pour avoir développé une chaîne de restauration rapide à New York, on a tous les trois de nos expériences réciproques connues avec nos clients cette problématique. Et c'est ça, c'est vraiment cette problématique-là qu'on cherche à répondre.
Donc votre approche, c'est de recruter et de former aussi ?
Alors effectivement, Badakan, comme vous l'avez très justement dit au tout début, c'est une solution complète. Une solution RH qui est spécialisée dans les missions courtes, mais qui englobe la totalité du besoin. C'est-à-dire la sélection, la formation, et l'accompagnement pendant la mission. Donc l'outil qui est sous forme d'application mobile et de
totalement
site internet,
digital.
Complètement digital, très bien, favorise le matching, on va y revenir si vous voulez bien, et la partie administrative. Mais également, on a une équipe, 7 jours sur 7, disponible de 7h30 à 23h, par téléphone, par texto, pour nos clients, pour nos badakaneurs, on les appelle comme ça, les gens qui vont travailler dans les restaurants, qui est à disposition pour que les opérations et pour que les missions se passent bien. Parce qu'en fait, au final, notre métier, ça reste un métier des ressources humaines. Et même si c'est, tout est digitalisé, c'est quand même deux professionnels qui se rencontrent et qui doivent faire en sorte que ce soit un succès.
François ?
J'ai pas idée de la qualité de votre service, mais je sais, pour fréquenter pas mal de restaurateurs, que pour eux c'est un enfer, quoi. C'est-à-dire ce personnel est totalement instable. Ils sont tous face à des problèmes du cuisinier qui vient pas, du garçon qui vient pas non plus parce que globalement il a fait de la fête. Et comme le disait le président Macron, il y a qu'à traverser la rue, etc. Mm-hmm. On vient pas là-dessus, etc. Ouais. Mais c'est sûrement un service bien approprié.
Mais en fait, vous avez tout résumé dans la problématique et je vous en remercie parce que l'idée de Badakhan, c'est d'arriver à favoriser ce matching parce qu'on a deux populations qui sont d'un côté très compétents et de l'autre côté un vrai besoin.
Il y a deux demandes.
Et qui ont de mal à se rencontrer. Et Badakhan sert à ça, à faire en sorte que ce personnel se rencontre et arrive à travailler ensemble. Et derrière, gère toute la partie administrative et juridique qui est très lourde, comme vous l'avez dit, pour des missions de courte durée également, contrat de travail, fiche de paye, déclaration URSSAF, etc. Et qui donc vont donner du temps aux restaurateurs pour qu'ils puissent se consacrer à des tâches à valeur ajoutée, à plus grande valeur ajoutée, je dirais, que d'aller chercher son extra et d'aller signer son contrat de travail.
Et tout confort pour le saisonnier ou l'extra.
Et
aussi.
Tout confort également pour l'extra, tout à fait.
Ouais. Ça s'appelle Badakhan, c'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous
Merci
la présenter.
Vous.
Merci à notre coach François Sigel aujourd'hui. Plaisir. À bientôt.
À demain,
et nous, on
Raphaël.
Se dit à demain. Surprise, tiens, demain.
À 14h, dans un instant, sur Europe 1, comme chaque jour, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondat qui vous raconte des affaires criminelles, des portraits hors du commun. Quel est le programme aujourd'hui, Christophe ?
Bonjour Anissa.
Bonjour Christophe.
Aujourd'hui Anissa, je vais vous raconter l'histoire d'un maton, un surveillant de prison, 30 ans de carrière jusqu'à sa démission.
Maton et fier de l'être, c'est l'histoire d'Éric Pérez racontée par Christophe Ondat dans un instant sur Europe 1.